sommes au milieu du chapitre 3. On va commencer notre deuxième cours sur le chapitre 3. Et on va faire un petit topo rapide pour ceux qui n'étaient pas là, puisqu'il y a plusieurs qui n'étaient pas là. On va expliquer la chose suivante. On va expliquer qu'une erreur que beaucoup de gens font, une erreur que le peuple fait, de penser que la teshuva, le retour vers Hachem, ce sont les jeunes. Dans la tête de beaucoup de gens, c'est quoi la teshuva? C'est les jeunes. C'est les jeunes. Ce sont les jeunes.
Pas manger.
Ce qui est une erreur. Qui est là?
T'es pas là?
Non.
Non, c'est dehors.
Bonsoir. Alors, ce qui est évidemment une erreur, de penser que la teshuva, ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué longuement dans le premier chapitre que la teshuva, en vérité, c'est une décision d'un instant qui peut s'accomplir, comme on a expliqué, avec une décision de la personne de revenir. On a expliqué longuement. Ok. Alors dans ce cas-là, à quoi sert le sacrifice, à quoi sert le jeûne? Alors là, on a expliqué la chose suivante, et on a pas mal développé, que même si la teshuva, on peut l'obtenir en une seconde, par une décision sincère de ne plus recommencer, certes, on peut l'obtenir par une décision rapide, mais après, parfois... On sent, allez rabotez, se concentre s'il vous plaît, le résumé est le plus important parce que c'est là qu'on prend le train. Si on a raté le train, après on est perdu pour tout le cours, c'est dommage. Donc là, c'est comme le train, il faut prendre le train maintenant, ça prend le train. Je m'excuse de reprendre. Donc, on disait que la teshuva, c'est une décision d'un instant. Alors si la teshuva, c'est une décision d'un instant, alors comment ça se fait qu'on parle de jeûne, comment ça se fait qu'on parle de tzedaka, comment ça se fait qu'on parle de ci, qu'on parle de ça? Alors on a expliqué que même si la teshuva, on peut l'obtenir en un instant, mais il y a des choses qui vont permettre de parfaire la teshuva. Pourquoi parfaire? On avait donné un exemple. Comme si des fois, par exemple, tu t'accrochais avec quelqu'un. T'accrochais avec un ami, t'accrochais avec ta femme, t'accrochais avec quelqu'un. Tu t'es excusé, et la personne t'a excusé. Oh. Mais tu sens que c'est pas comme avant. Tu sens que c'est pas comme avant. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va amener un bouquet de fleurs. Enfin, mec, on dit bouquet de fleurs. Pourquoi il sert le bouquet de fleurs? Le bouquet de fleurs, il sert. Il sert pas à s'excuser. Parce que si tu veux t'excuser avec un bouquet de fleurs, je te prends la figure. Ouais. À quoi il sert le bouquet de fleurs?
À apaiser la tension.
Alors, justement, à apaiser la tension, à faire en sorte d'essayer,
à adoucir,
que je sois aussi cher avant, aussi cher qu'avant, aussi chéri à ses yeux qu'avant, etc. Alors, de la même façon avec la Kadosh Baruch Hu. Quand on a fauté, on ne peut faire tshuva, très bien. T'as fauté, tu peux fauter pendant un an, faire tshuva en une seconde, Dieu te pardonne. La question n'est pas ce qui m'a pardonné. La question est, est-ce que Dieu est intéressé de m'accompagner? Ou est-ce que je lui prends la tête? Je m'excuse de parler comme ça, mais est-ce que Dieu est content de me voir? Et des fois, on sent que Dieu, il est pas content de moi. Maintenant, j'ai fait le chouva, Dieu m'a pardonné, t'inquiète pas, tu iras pas au Gainum, pas de problème. Ça te fait peur, tu iras pas au Gainum. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu sens qu'il y a un blocage. C'est là que, à l'époque de la Gemara, on amenait le Corban. C'est quoi le Corban? Le sacrifice. À quoi sert le sacrifice? Le sacrifice, c'est pas pour se faire pardonner. Parce que tu crois que parce que t'as fait une faute, tu vas amener une poule, tu vas amener un veau, tu vas amener une vache, tu vas te faire pardonner. N'importe quoi. Il y a aucun sens. Seulement, à quoi sert le veau, etc. On verra après dans les détails. Une fois que tu t'es excusé auprès d'Akadosh Baruch Hu et que tu as fait une teshuva sincère, honnête et réelle. Là, maintenant, vient le corban que Dieu t'a demandé. On verra pourquoi. D'accord? Mais en tout cas, vient le corban que Dieu t'a demandé pour être chéri à ses yeux comme avant. On aurait bien aimé offrir un corban aujourd'hui. Parce que c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Et puisqu'on n'a plus le Beth Amikdash, le corban a été remplacé par quoi?
Bon, le bouquet de fleurs.
Alors, il a été remplacé par, les jeunes. Pour ça que dans la Gemara, on parle beaucoup de jeunes. On avait donné l'exemple la semaine dernière, et dans le cours d'avant aussi. Des Talmidei Chachamim qui jeûnaient pour des toutes petites fautes, qui jeûnaient 40 jeunes, 50 jeunes, au point que leurs dents noircissaient, etc. Vous vous rappelez? Pourquoi? Parce que voilà, parce qu'ils sentaient que leur relation avec Dieu n'était plus comme avant. Ils s'étaient pardonnés, pas de problème. Mais leur relation avec eux n'était pas comme avant. C'est pour ça qu'ils jeûnaient. Ils jeûnaient. Bon. Donc après, on a amené ceux qui étaient là la semaine dernière. On a fait tout un calcul avec le Harizal, etc. Des nombres de jeunes. Vous rappelez, nous, qu'on arrivait la semaine dernière. C'était des jeunes. C'était phénoménal, quand on arrivait. Nombre de jeunes. C'est-à-dire pour chaque faute, par exemple, on allait des nombres pour des fautes qui sont relativement petites. D'accord? 84 jeunes, 154 jeunes. Tiens, allez, voilà un exemple, la colère. C'est quoi la gématria, le valeur numérique de la colère? Kas. Kraf, 20. Aïn, 70. Ça fait combien? 90. Sa mère, 60. 150. C'est écrit dans les écrits du Arizal que celui qui s'énerve de jeûner 150 jeûnes.
151.
Hein, 150. Ah oui, plus le kollel, d'accord.
Quand 150 jeunes suivis comme ça.
Alors voilà.
Répartis sur l'année.
Répartis, mais elle a réparti.
Un jour sur deux.
Il y avait un problème, monsieur Benita, mais il faut les payer, tout ça.
Non,
d'accord. Alors, on a expliqué que, concrètement, évidemment, déjà à l'époque de Morazaken, c'était impossible. C'est impossible. Personne ne peut gêner autant de jeunes. D'abord, parce qu'encore faut-il avoir le registre de nos fautes. Bon, c'est déjà un premier problème. Même si tu avais le registre de tes fautes, qui est capable de jeûner tout ça? Ça s'appelle jeûner toute la vie dans ce cas-là.
Ouais.
C'est pour chaque petite faute, tu mets une. Alors, on a expliqué la semaine dernière. Est-ce qu'on cumule? Est-ce qu'on cumule pas? Fois 3, fois 10, fois 1. Bon, peu importe. Mais c'est énorme. Alors, on a expliqué la semaine dernière qu'on peut racheter ces jeunes avec la tzedaka. On avait dit que même avec la tzedaka, on avait donné un calcul, on avait un équivalent, environ 8 euros par jeune, etc. Ben bon, on a fait le calcul tout de suite, on a vu que, quoi, si pour, donc, prenez par exemple l'exemple de personne qui s'est énervé. Il s'est énervé avec sa femme, c'est avec son frère, c'est avec sa soeur, c'est avec son employé, c'est avec son garagiste, avec je ne sais qui. Il s'est énervé. D'accord? On va compter 151 fois 8. Ça fait combien?
1200.
Tout de suite, t'arrives à 1200 euros. Je suis juste énervé, tu vois, il a rien fait.
Faut que ça
vire
une fois dans l'année.
C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué qu'aujourd'hui, on essaye de... Bon, alors aujourd'hui, c'est en théorie ce qu'on est en train de dire. On va expliquer après comment appliquer ça concrètement. Mais c'est important quand même de le savoir. Alors, on va prendre maintenant dans les mots « Umikol makom », néanmoins. Je vais à la page 191. Alors, je dois vous préciser, deux secondes, avant la question de M. Benita, je dois vous préciser que ce qu'on va dire au début du cours d'aujourd'hui n'est pas concret. C'est-à-dire que ça a été écrit à l'époque de Morazaken, parce qu'à cette époque-là, il va nous donner une technique comment jeûner. Il va dire, bon, écoute, si vraiment tu n'arrives pas à jeûner les jeûnes d'affilée, alors tu peux espacer les jeûnes, etc., etc. Mais je dois vous préciser d'emblée que ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas d'actualité. Il y a un après. Ça, c'était à l'époque. Ça, c'était écrit il y a 200 ans. En général, tout ce qui est écrit, c'est actuel. Mais à l'époque, à 200 ans, le corps arrivait à tenir ça au moins. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas jeûner comme à l'époque Agmara. À l'époque Agmara, il pouvait te jeûner 50 jeûnes d'affilée en mangeant le soir. 50 jeunes d'affilée, il ne bronchait pas. Déjà, à l'époque de Morazaken, c'est plus compliqué. Donc il va trouver une technique. Mais même la technique qu'il va trouver, aujourd'hui, elle n'est plus applicable. Mais c'est quand même important d'étudier. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut comprendre ce qu'on aurait dû payer. C'est important de comprendre. Ne crois pas que les gens ils pensent qu'il faut vraiment toute l'année, ils arrivent à Kippour comme une fleur, Ils arrivent à Kippour comme une fleur, ils croient pardonnez-moi, tu passes. Tu crois comme ça. Fait maintenant toute l'année, ils passent. D'accord? C'est quoi ça? C'est des blagues? C'est n'importe quoi. Mais c'est pas drôle, mais c'est nous, c'est le pire. Non, mais ils rigolent parce qu'on rit jaune. Hein, c'est nous. Mais c'est nous de qui on parle? C'est nous. Toute l'année, papa, elle arrive à la fin de l'année, il fait ratanou, de qui tu parles, quand tu parles. Donc, on va comprendre ce qu'on aurait dû payer. Bon, il y avait une question, monsieur Benita, je l'attends avec impatience, allez-y.
Elle est partie, je ne me rappelle plus,
Alors?
Ah, voilà. Servez-vous. Alors, allez-y.
Vous avez dit que, aujourd'hui.
Pas moi, c'est le texte, hein.
Oui, le texte. Oui, mais enfin.
Vous avez dit.
Mais c'est le.
Quelle
êtes,
date?
Vous êtes le.
À quelle heure?
Vous êtes le représentant du texte.
Ah, d'accord. Bon, ok. Merci.
Quel honneur.
Alors, vous avez dit que.
Bon, ok, ils savent parler, hein.
Le texte a dit. Il a dit ça. Il dit le texte. Tout va très bien. Tu pleures ou tu ris.
Bon.
Après ça, tant pis. Vous avez dit que.
Monsieur Benita, tout va bien.
Le jeune.
Rassurez-moi, tout va bien.
Tout va bien. À Kolbeseder Todaraba.
Pas au Rachem. Ok, allez-y.
Vous avez dit qu'avec le jeûne, on ne peut pas faire aujourd'hui parce que 50 jours, 300 jours, je ne sais pas quoi. Bon, c'est ça. L'argent, on arrive à 2000 euros. Mais bah, voyez, alors quoi?
Ok, c'est une très bonne question. On va voir. On va y arriver. Alors, il nous reste l'étude. Mais quelle étude?
Les fleurs.
D'accord. Ok, on y va. Umikol makom, néanmoins. Je suis au milieu de la page 191. Vous avez dans les mots?
Oui.
Joseph, vous avez des questions?
Oui.
Non, il n'y en a pas. Ouais, le frère. Ah, vous forcez pas, il n'y a pas de problème. Alors.
Il est gentil, il est gentil.
J'avais une question. Il y en a plein de questions, mais il se retient.
Ouais. On a parlé tout à l'heure, j'ai.
J'avais une question.
Alors.
Ah bon, alors.
Mais, ah, maintenant qu'on est dans le train, on peut.
Je vais la récupérer.
Ok. Vous m'y colle, ma com, néanmoins. Même si on a expliqué que. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Que lorsqu'une personne n'a pas la force de jeûner.
Ah oui.
Et qui jeûne quand même. C'est considéré comme une faute. Parce qu'à cause de ça, il ne pourra pas étudier la Torah. À cause de ça, il pourra pas s'occuper de sa femme et de sa femme comme il faut. À cause de ça, il ne pourra pas travailler, etc. Bon, mais quand même, celui qui a envie de payer. Mais kol makom néanmoins. Kol bal nefesh, tout homme d'esprit, achafetz kirvat Hashem, qui souhaite la proximité avec Dieu. Parce qu'il va dire, bon, tu me racontes, je ne peux pas, mais concrètement, il me manque quelque chose. Moi, je sens que j'ai fâché Dieu, je sens que ce n'est pas comme avant. Alors, il dit... Et que une personne qui veut le taken nafsho, qui veut réparer son âme, la shiva el hashem, pour regardez bien la précision du texte, la shiva el hashem, pour la permettre de revenir vers Dieu, betshuva meula minamufra, dans un repentir le plus parfait possible. Parce qu'encore une fois, un repentir de tout le monde, on peut l'avoir en une seconde, pas de problème, tu peux l'avoir en une seconde. Mais tu sens des fois que c'est pas ça. Donc je veux, tu me dis ouais mais les jeunes je peux pas gêner, alors qu'est-ce que je fais? Alors Yachmir alatzmo, il peut se montrer rigoureux envers soi-même. Le hashlim al kolpanim pa amachat kol imechayav, pour compléter au moins une fois toute sa vie. Misparatzmot lechol avon davon davonot achamorim. Alors là, c'est plus facile, mais c'est quand même compliqué. On avait donné un compte. Par exemple, on a dit que pour la colère, combien de jeunes il fallait jeûner?
151.
D'accord? On avait expliqué pour celui qui a eu de la semence en vain, celui qui a eu une perte de semence volontaire, évidemment, en vain, combien de jeunes il devait jeûner? 84. D'accord? Alors, on avait expliqué que celui qui l'avait plusieurs fois, par exemple, cette faute, on avait dit qu'on multiplie par 3. Non. On avait multiplié par 3. 84 fois 3, ça fait beaucoup. Ça fait déjà 252. Ok? Maintenant, il te dit, on peut pas jeûner tout ça. Alors, moi, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une technique. Mais une technique qui n'est plus applicable aujourd'hui. Mais une technique, c'est quoi la technique? C'est que tu vas essayer de faire au moins une fois dans ta vie le nombre de jeûnes qu'il faut pour chaque faute. Chaque faute que tu as fait, évidemment. Par exemple, la colère, 151. Donc, dans ma vie, je vais essayer de faire au moins une fois 151 jeûnes. La semence en vin, 84. Dans ma vie, je vais essayer de faire une fois 84. Et comme ça, t'as un calepin, tu notes. Ok? Donc, tu fais une fois le nombre de jeûnes.
Bon, il y aura de la place dans le calepin?
Oui, quand même, j'espère. Va filoubi de chevamil. D'accord? Alors, tout d'abord, mispar at somot chel chalavan mavan. Au moins, on va commencer par les fautes graves. Chechavim et la mital kolpanim. Des fautes pour lesquelles on est passible de mort. Va filoubi de chevamil bilvad. Même si c'est des fautes pour lesquelles on est passible de mort que du ciel. Vous savez qu'une personne qui fait sortir la semence en vain, il est passible de la mort du ciel. C'est très grave. Les gens ne se rendent pas compte. Seulement, la Torah nous dit, j'en parle parce que le Tanya en parle. Et parce que ici, dans ce Guéret Hatshuva, il en parle beaucoup. Et qu'il y a une raison pour qu'il en parle beaucoup. Parce que c'est des fautes, qu'il y a des fautes que ça commence des fois quand on est jeune. Et quand on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, on croit que c'est rien du tout. Surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Non, c'est rien, c'est chlut, c'est rien du tout. Alors qu'en vérité, c'est très grave. Une personne qui fait ça, c'est des choses qui entraînent, Dieu préserve, la mort spirituelle. C'est très grave.
Ça arrive dans le rêve.
Hein? Je parle de volontaire pour l'instant. Et le rêve, il arrivait d'où le rêve?
Ah bah, et le mec, il dort, il rêve.
Oui, mais pourquoi il a rêvé?
Bah, comment il a rêvé?
Pourquoi? Quel film il a vu avant de dormir?
Pas forcément.
Il a vu une vidéo du rabbi ou il a vu les feux de l'amour?
L'amour est dans le pré.
Je connais pas.
On peut rêver sans.
Et dans le pré, il y a tous les amours.
Ça va.
Pour l'instant, on parle de hotzat. Hotzat, c'est-à-dire faire sortir. Faire sortir.
C'est de volontaire. Façon volontaire.
Volontaire.
D'accord.
Okay. C'est assourd. Il n'y a pas à discuter, c'est assourd. Okay. Maintenant, il y en verra comme ça. On te dit que, on va commencer déjà quand on va faire tchouva, à faire tchouva sur les fautes graves. Qu'est-ce qu'on appelle les fautes graves? C'est les fautes sur lesquelles on est passible de mort. Et je parle pas seulement d'une mort que le Bedin t'aurait coupé la tête, du réserve. Je parle même des fautes qu'une faute comme ça, que c'est mitabi des shamaim, c'est une mort du ciel, c'est très grave. On te dit par exemple, c'est écrit que Er et Onan, les enfants de Yehuda, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? À cause de ça. Parce que lorsqu'ils avaient des relations avec leur femme, ils s'arrangeaient pour, au dernier instant, ne pas avoir d'enfants. Donc ça veut dire que c'était de la semence en vain. D'accord, c'est une forme de semence en vain. Il y a d'autres formes de la viradjance. Donc, je referme la parenthèse. Pour une faute comme ça, c'est un exemple. Et ça, c'est 84, l'autre, c'est 151, l'autre, etc. On avait donné. Pour ceux qui étaient à ce moment-là, ceux qui n'étaient pas là peuvent voir le début du chapitre 3. Donc, qui gonne le tsa tzera levatala, pédalet tsomot pa machad mimichayav. De payer une fois dans sa vie. Une fois 84. Donc, vous comprenez que si on fait l'équivalent de tzedaka, vous avez dans les mots 100 balles. Ok. Là, j'ai tourné la page. Tourné la page,
192.
En haut de la page. Donc, Egon, par exemple, l'Otsa Zera Levatala, Pédalet, Tsomot, Pamachad, Mimichayav. Donc, 84 jeunes, une fois dans sa vie. Ok? C'est une faute qui est, c'est une faute qui est très grave, cette faute. Parce que c'est une faute dans laquelle, on prend, Akadosh Baruch Hu nous a donné, j'ai étudié récemment sur ce sujet, pas spécialement sur la semence, en vain, mais la capacité de procréer. Si on réfléchit, Dieu nous a donné une capacité de procréer. La capacité de procréer, c'est une capacité divine. Parce que normalement, il n'y a que Dieu qui peut créer. Nous, les hommes, on ne peut pas créer. On peut façonner. Je peux prendre du pétrole, en faire un verre. Mais je ne peux pas créer. Créer, je ne peux pas, il n'y a que Dieu qui peut créer. Donc lorsque Dieu me donne la possibilité de procréer, ça veut dire qu'il me donne une capacité qui est divine. Que normalement, il n'y a que l'infini divin qui a. Pourquoi ? Parce que moi, si je peux créer un enfant, et que cet enfant peut créer des enfants à l'infini, ça veut dire que Dieu m'a conféré un pouvoir infini. C'est extraordinaire. Tu veux me dire, oui, il n'y a pas comment, il a donné aussi aux animaux, il a donné aussi aux plantes, il a donné, etc. Mais je comprends, c'est une autre question. Mais Akadosh Baruch m'a donné un pouvoir infini. Donc quand tu prends un organe qui a une tellement grande Kedusha, d'ailleurs c'est pour ça, le Zohar nous dit, c'est pour ça qu'autour de cet organe, il y a un grand Yetzarara. Parce qu'il y a un principe qui dit que dès qu'il y a une grande Kedusha, il y a une grande, le grand Yetzarara, il est très grand. Comment ça se fait que c'est l'organe du corps dans lequel il y a le plus Yetzarara? Pourquoi il n'y a pas un Yetzarara avec les mains? Pourquoi il n'y a pas un Yetzarara avec le bras, avec le pied, etc. Pourquoi il y a un Yetzarara avec cet organe? Parce que cet organe, l'organe génital, est un organe qui a une très grande Kedusha, qui a un très grand potentiel. C'est un organe divin. Donc comme c'est un organe divin, c'est la raison pour laquelle cet organe est une grande Kedusha. Donc lorsqu'une personne prend un organe divin qui aurait pu créer et qui prend cette semence qui potentiellement est un bébé, parce que dans cette semence il y a un bébé, potentiellement cette semence aurait pu donner naissance à un bébé, d'accord ? Quand on prend cette semence, Dieu préserve, et qu'on la met en pure perte, qu'est-ce qui se passe ? On a tué un enfant. Oui, on l'a tué. Oui, il a pas tué, j'ai pas tué. Oui, mais je comprends qu'il a pas tué, mais concrètement, potentiellement, il y avait une vie dans ça. Il y avait un potentiel de vie. On a utilisé une capacité de procréer qu'Hachem nous a donné pour faire une bêtise. C'est absurde. C'est n'importe quoi. Donc, faut faire tchouva. Ok? Maintenant, il donne un exemple comme, donc, tu prends une faute comme ça. Il faut jeûner 84 jeûnes. Il dit, comment je vais jeûner 84 jeûnes? Tu dis, ok, alors une fois dans ta vie. Mais je comprends, mais comment je peux pas jeûner 84 jeûnes d'affilée. Alors, on va expliquer. Deux secondes, je termine le raisonnement. Veyachol itrotan, il peut les repousser. Il peut les repousser. En haut de la page 192. Limot aktsarim bechoref. Déjà, c'est la solution qu'avait donné David la semaine dernière. Hein. Oui, et il dit déjà, les jeûnes, tu peux les faire en hiver, parce que c'est pas forcément des jeûnes consécutifs, et c'est pas forcément des jeûnes tout de suite après la faute.
Mais il n'y a pas une année où il n'y a pas de limite.
Non, on a dit une fois dans ta vie.
Ah, oui.
T'espères vivre combien d'années?
Je sais pas, oui, tu sais pas si tu vas demain en tard.
Bon, très bien. 120 ans, j'espère, d'accord? Ouais. Donc tu comptes. Un jour, deux jours, ouais. Tu jeûnes, ok?
Alors on va jeûner celui qui donne le moins de jours
possible. Exactement, donc on va jeûner. Non. Une fois le nombre de jeunes de fautes, le nombre de jeunes par faute. C'est-à-dire que normalement, si j'ai fait une faute et que je la recommence dans deux ans, je dois tout recommencer à chaque fois les jeunes. Ouais. D'accord. Mais là, il te dit, comme on peut pas payer, on te dit, tu vas faire une fois dans ta vie, le nombre de jeunes qu'il faut pour cette faute. Une fois dans ta vie.
Mais je commence plus après.
D'accord.
Oui, mais dans la,
Okay.
Mais dans la vie, j'ai fait plusieurs fautes. Laquelle je dois choisir?
Je comprends. Fait chouva. C'est en fait chouva. De toutes les façons, on fait chouva. Là, on n'est pas en train de parler de la teshuva, on est en train de parler
Donc, à l'intérieur de cette teshuva, je vais choisir la faute qui donne le moins de points possible, et c'est là que je choisis.
Non, j'ai pas compris.
Non.
Pour chaque faute que je fais une fois le nombre de jours.
Pareil. Ah, il faut tout faire.
Alors. Bien sûr. Ah oui. Faut tout faire, mais une fois dans la vie. Ok. Donc déjà, on a des jeunes qui sont possibles. Déjà, on a des jeunes qui sont possibles en hiver. En hiver. Veit année. Qui est certainiote, elle déclenche le bachoreferad. Par exemple, imaginons qu'une personne il va prendre l'hiver. Là, on est dans la bonne période. Je ne dis pas qu'on faut le faire, on le fait pas maintenant. Mais en l'hiver, il prend les jours les plus courts, et il va mettre, par exemple, il va étaler 10 jours de jeûne en hiver. Peut-être jouable.
Oui, bien sûr.
Au parent, mais moins que ça.
Jusqu'à, oui.
Donc veigmor mispar à pedalet somot, il compte là. Betel chanin. Donc s'il va jeûner, par exemple, 10 jeûnes, d'accord, 10 jeûnes par hiver, ça veut dire qu'en 9 ans il aura terminé.
Ah,
ouais. Ok. Oyoter qui fait courant. Maintenant, à part ça, Il peut aussi manger 3 heures avant le netz. Ça veut dire que manger 3 heures, parce que c'est pas simple de manger avant le jeûne. Manger avant le jeûne, c'est pas simple. Mais quand tu es 3 heures avant le netz, ce qui est l'équivalent, donc ça veut dire c'est avant le début du jeûne, il va manger. Donc bon, c'est jouable. C'est quand même considéré comme un jeûne, à condition qu'il ait fait la condition de manger avant le jeûne. Très important, ça. Quand tu manges avant le jeûne, quand tu manges, Michel en a parlé la dernière fois de ça, quand tu manges avant le jeûne, il faut que tu aies émis la condition de manger. La veille, sinon tu peux pas. Ah oui. Enfin, la condition. Bah, c'est quoi la condition? C'est pas une condition verbale. Ça peut être, par exemple, une condition implicite. Par exemple, j'ai mis mon réveil. Ou par exemple, je comptais me réveiller. Si je comptais pas me réveiller et que je me suis réveillé par hasard pour le toilette et je veux manger, c'est plus compliqué. Parce que dans ma tête, quand je suis parti dormir, le jeûne avait déjà commencé. Ah oui, donc c'est un problème. Donc là, si vous voulez, il essaye de vraiment d'arranger. Tu dis, voilà, écoute, d'abord tu fais en hiver. Tu fais sur 10 ans. Ah, je t'ai pas dit, en 10 ans. En plus, tu vas manger avant le matin. J'ai pas fini. D'accord? Il donne encore un autre exemple. Il dit, donc si tu comptes, tu dis, ou les tâches l'oubrèche l'oubrèche l'oubrèche. Il dit, oui, mais quand même, il y a des jeunes que c'est énorme. Et par exemple, une personne qui a envie de faire, par exemple, il a envie de faire 10, mais moi j'ai envie de faire 3 fois. Ok? Alors il dit, d'après certains avis, un demi-jeûne est appelé aussi un jeûne. Alors, donc qu'est-ce que tu fais? Donc ça veut dire qu'un jeûne jusqu'à midi, ça pourrait être considéré aussi un demi-jeûne. Donc c'est-à-dire en vérité, ce que je veux dire par là, c'est que deux demi-jeûnes peuvent devenir un jeûne.
Une journée. C'est pour les jeûnes à part faire.
Voilà, que pour les jeûnes de Teshuva. Ok? Que pour les jeunes de Teshuva.
Mis à part ça, un docteur a parlé, il disait qu'un jeûne de 12 heures,
oui.
La nuit jusqu'au lendemain midi,
certainement, mais à condition que le corps est en mesure de gérer.
Les problèmes de colon, tout ça.
Là, vous savez que certainement, mais il faut être en mesure de gérer. Là, on ne parle pas d'un jour, d'un jeûne ponctuel. On parle de
plusieurs jeûnes, comme tu dis.
Là, il vous parle de 250 demi-jeûnes. C'est énorme, c'est énorme.
J'ai vu un documentaire là-dessus.
Donc, reprenons. Donc, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est ce qu'on appelle dans le jargon talmudique, dans le jargon halakhique aussi, on appelle ça ta'anit sha'ot. Ta'anit sha'ot, ça veut dire un jeûne quelques heures. Ça arrive assez souvent, malheureusement. Bon, c'est plus calme en ce moment. Mais lorsqu'il y avait des grandes zérotes sur le peuple juif, lorsque par exemple, il y avait la guerre du Golfe, etc., l'escavée, etc. Joseph.
Avec nous.
On reste dans le train.
J'écoute.
Alors, ouais. Lorsqu'il y avait des moments de grandes zérotes sur le peuple juif, ça arrivait souvent que le rabbi ou d'autres tzadikim, ils instauraient un ta'anit sha'ot. Un jeûne, un demi-jeûne. Bon, aujourd'hui, ça se fait plus vraiment aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est bien, je vous parle, il y a 10 ans, il y a 20 ans, certainement, vous avez entendu parler des fois des jeunes. Des rabbinimes qui instaurent comme ça des jeunes de, on appelle ça un demi-jeune. Et un demi-jeune, ça a une valeur à l'Afrique. Un demi-jeune, c'est quelque chose. Une fois, le rabbi l'avait expliqué.
Ils ont lancé sur les réseaux, il y a 2 ou 3 semaines pour
le Banti, oui.
Chez Madagos.
Ouais, c'est possible. Aujourd'hui, on le fait plus. Aujourd'hui, on le fait plus. Mais pour vous dire, c'est quelque chose qui existe. Une fois, le rabbi l'a fait à Farfaringan, dans lequel il avait expliqué, qu'en vérité, au début de l'année, on commence l'année avec 3 jeûnes. Pourquoi? Parce que dans les faits, c'est vrai que Rosh Hashanah, on jeûne pas. Mais à quelle heure on rentre de la synagogue? On rentre à la maison, je sais pas, il est au moins
3 heures.
Il est 1 heure, 2 heures. Donc on a dépassé Khatsot. Or, d'après un avis, si on a déjà dépassé Khatsot, on a déjà passé la moitié de la journée, c'est déjà considéré un jeûne. Donc on a déjà 2 jours de jeûne. Plus le jeûne de Gedalia, ça fait 3 jours de jeûne. Et c'est écrit dans la Gemara, quand on fait 3 jours de jeûne, c'est un très grand mérite. Donc ça veut dire que chaque année, on démarre l'année avec 3 jours de jeûne.
C'est non.
Quand?
Rosh Hashanah, non?
Ah, Rosh Hashanah.
Ça dépend, je sais pas, tu prends, peut-être?
C'est même.
Normalement, on prend rien. Rosh Hashanah, on prend rien. Vous prenez le café, Rachid?
Il peut aller le dire avant.
Ah.
Jusqu'à 1 heure.
Ah,
il fallait le dire avant.
Tu connais pas. Avant le chauffard, on prend rien.
Ah, d'accord. Avant pour l'année prochaine.
Hein? Avant le chauffard, on prend rien. Hein?
Non, au contraire, chez Chabad, il n'y a pas.
C'est Chabad ou c'est...
Ah, Chabad, oui. Chabad, il mange aussi.
Non, mais c'est là, Chabad, tout le monde prend le café, Chabad.
Et même il mange.
On prend le café. Là, je te parle de boire le café. Là, comme t'es une mitzvah, tu fais pas. Bon. Donc, concluons. Ushne chatsayom, nershavim loliyom echad, d'accord? Et donc, 2 demi-journées sont considérées comme 1 jour. Bon, je passe à la page suivante. Vechen, pareil. Ushar avanot kotsebaen, asher kol aviodama. J'accélère parce que, comme vous avez compris, c'est pas d'actualité parce que personne ne peut payer tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce qui était un arrangement, vous êtes d'accord avec moi? Ce qui à l'époque était un arrangement. C'est-à-dire à l'époque, il dit bon, je t'arrange, je te fais, tu payes ça sur 10 ans, ouais. Tranquille, etc. Même aujourd'hui, quand tu vois ça, tu dis bon, mais j'ai compris, mais même si je devrais jeûner, j'en ai pour toute ma vie.
Mais même à l'époque, quand on te paye ça sur 10 ans, entre 10
et zéro. Il a fait encore des averot.
Oui, mais il faut comprendre, monsieur Binda, quelque chose. Ça, à l'époque, il y avait des gens, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ça, qui à la fin de l'année, ils avaient un calepin. Ils étaient capables de vous dire quelle faute ils ont fait cette année. Est-ce que vous, moi, est-ce que je suis capable de dire quelle faute j'ai fait la semaine dernière? Je suis incapable de vous répondre. Quelle faute j'ai fait depuis dimanche dernier? Depuis une semaine.
Si tu n'étais pas capable, alors nous...
Non, mais, voilà. Il y a eu une semaine qui s'est passée depuis lundi dernier. Quelle faute j'ai fait depuis lundi? Certainement que si je me casse la tête, si j'essaie de me rappeler, peut-être je vais trouver une partie, je ne sais pas. Mais ça ne me trotte pas dans l'esprit du tout, donc ça veut dire que ce n'est pas dans ma tête. Si tout le monde dit, comme quelle faute t'as fait, j'en sais rien, ça ne travaille pas du tout. À l'époque, on parle des gens qui étaient capables de vous dire à la fin de l'année, quand ils arrivaient à Kippour, ils savaient exactement sur quoi ils faisaient de chouva. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une personne, il a un calepin, et le calepin était relativement vide.
Donc il y a un classement au niveau des pointures. C'est des pointures.
Oui.
Ouais, mais nous, on marque pas, mais alors, comme il a dit.
Oui, bien sûr.
Il y a pas de place dans le calepin.
Quoi? Bien sûr. Et les fautes passives de mort sont les plus graves.
Un téléphone de 256 gigas, tu veux.
Ah. Non, mais ça, il a raison. C'est pas ça, c'est que personne peut payer tout ça.
Il n'y a pas de place, on t'a dit, Sergio.
Encore faudrait-il qu'on connaisse toutes les lois pour pouvoir marquer
une astuce. Écoutez,
c'est très difficile.
Je comprends votre question. C'est une excellente question, Joseph.
C'est tout.
D'accord.
Les gens, ils marquent. Mais attends, ces gens-là, c'est des érudits. Parce qu'ils connaissent donc les lois. Ils savent qu'ils se sont trompés.
Très bonne question. Mais Joseph, moi, je ne parle pas de faute. Je parle de transgression. Je parle de personnes. Oui, je parle de gens en connaissance de cause. C'est-à-dire, c'est pas, il a été éduqué dedans, il savait que c'est interdit.
On n'est pas en connaissance de cause.
Maintenant, si vous voulez, je peux vous inviter à un cercle de fauteurs anonymes. Alors voilà, je vous présente.
Salut, ça va, c'est à vous.
Non, mais c'est important parce que.
Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire?
Voilà, j'ai frotté.
Mais mon père, alors.
Mais alors, si les gens qui faisaient ça, c'était des gens qui étaient des érudits.
Oui.
Des autres.
Non, c'est même pas des érudits. C'est un autre standard.
D'accord. Alors, on va dire.
C'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, avec les médias, avec la télé, vous avez la télévision, etc., le monde dans lequel on vit, ils banalisent tellement la faute, que, bon, c'est rien. C'est un fait divers. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, on t'apprend qu'il y a un homme qui a trompé sa femme, on t'apprend qu'il y a un truc, etc. Les gens disent, ou quoi ils se mêlent? C'est un fait divers.
Ouais.
Vous savez qu'à l'époque, on mettait des gens à mort pour ça. Je dis pas que la Torah le dit, la Torah, ça dépend, les circonstances, etc. Mais c'était grave. C'est une faute grave. À l'époque, par exemple, un mari qui découvrait que sa femme l'avait trompé, qui allait au tribunal, qui demandait le divorce, la femme, elle repartait sans rien. Elle était déjà contente de repartir en vie, d'accord, tranquille. T'étais pas terminé pas en prison, d'accord?
En prison.
Mais bien sûr. On est en prison pour ça. C'est très grave, c'est une faute grave. Aujourd'hui, c'est pas une faute. C'est pas une faute aujourd'hui. Au lieu, tu vas au tribunal. Exactement, c'est pas avec le divorce. C'est-à-dire que, tu veux divorcer, ben, il faut payer. Donc quoi, il a trompé.
Il a droit, oui, c'est naturel.
Vous imaginez le monde dans lequel on vit? Le monde, on vit dans un monde qui banalise les fautes. C'est pour ça qu'on...
Qui autorise.
Oui, qui banalise complètement.
Oui, mais ce genre de personne...
Aujourd'hui, vous remplissez les papiers. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous remplissez les papiers. D'accord? C'est horrible parce que, voilà, quand je remplis les papiers pour les enfants. Tu fais un passeport. Donc, tu as deux colonnes. Avant, dans les deux colonnes, il y avait la colonne du père, la colonne de la mère.
Ouais.
Je sais pas si vous avez fait un passeport pour des enfants. D'accord? Quand tu fais le passeport maintenant, c'est pas comme ça. T'as pas une colonne père et mère. T'as deux colonnes. Et dans les deux colonnes en haut, il y a père. Mère.
Papa, tu peux avoir deux pères.
C'est réalité ce que je vous dis. Allez faire un passeport, vous allez voir ce que je vous dis. Ça veut dire qu'on a officialisé la faute. Avant, c'est pas d'aujourd'hui que les gens ils allaient, les hommes avec les hommes, avec les femmes. Mais avant, les gens ils se cachaient pour ça. Ils se cachaient, c'était quelque chose, c'était un tabou, on n'en parlait pas. C'est pas quand t'allais faire un passeport, tu mettais père. C'est pas possible. N'importe quoi. Va faire un passeport, tu vas voir. Télécharge sur internet le formulaire, tu vas voir. C'est choquant. Ah, moi, j'ai eu ça.
Il y en a de plus en plus.
Partout. Tu remplis les trucs de la sécu, tu remplis. Mais attends, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'on a légalisé.
Complètement.
Donc ça, c'est pour vous expliquer, pour répondre à la question de M. Benita. Je réponds deux secondes. M. Benita, il me dit, mais à l'époque, c'est les tzadikim. C'était pas les tzadikim à l'époque. Mais à l'époque, il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs qu'ils avaient, que le monde avait. Aujourd'hui, ces valeurs, on a du mal à les garder, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement banalisé. Mais ça n'empêche pas qu'on doit réaliser les fautes qu'on fait. On doit réaliser qu'il faut payer pour tout ça. Alors, comment on paye? Alors, je disais, à l'époque, on avait le sacrifice. À défaut du sacrifice, on est remplacé par les jeunes. Les jeunes, normalement, il aurait fallu jeûner autant de fois, etc. On a limité à 3 fois. Après, on a dit, bon, c'est pas 3 fois, c'est une fois dans ta vie. Après, on a dit, bon, tu sais quoi, fais une journée. Allez, yalla. Va, bon, elle est telle sur 10 ans, elle est telle sur 20 ans. Mais il faut payer quand même. Il faut payer. Et ça, on est incapable de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à un juif de faire ça. Personne n'a la santé pour jeûner des milliers de jeunes. Même si c'est des demi-jeunes étalés sur 20 ans, sur 50 ans. Personne, en tout cas, personne. Je ne sais pas, personne. Il y a peut-être des gens qui ont la santé pour ça. Mais très peu de gens ont la santé pour le faire. Donc, il nous faut la solution. C'est quoi la solution ?
Faut payer.
Personne n'a assez d'argent pour payer. Tout ça. Oui, parce qu'on avait dit que c'est l'équivalent d'un repas. Maintenant, le repas, c'est l'équivalent de ton repas. C'est-à-dire que si tu manges une pizza, bah, tu payes une pizza. Et si pourtant un repas, c'est à chaque fois 80 euros, bah, tu vas payer 80 euros par jeune que tu aurais dû jeûner.
En fonction de...
Oui, mais je comprends. Mais si tu lui dis juste pour un coup de colère, il doit payer 150 jeunes, 151 jeunes... Venez.
Ah oui.
Ça en fait des pizzas.
Tu le fais sur 10 ans. Non, mais c'est jouable, c'est faisable. C'est faisable.
Pizza aussi.
Alors comment on fait? Alors regardez. Diva filou. Bon.
Attends.
Ça veut dire qu'on va tourner la page. D'accord.
193.
Hakol, kasher la colle. Je suis à la page 194 maintenant.
On va aussi à colle.
194 en haut. C'est-à-dire que normalement, pour toutes les fautes qu'on a fait, dans les fautes, il y a la chanara. Il y a le fait de ne pas étudier la Torah, d'accord? Il y a le fait de ne pas accomplir une mise positive. Il a peut-être oublié une fois de faire le schéma.
Ah oui,
d'accord? Il a peut-être une fois regardé ce qu'il n'a pas regardé. Il a peut-être une fois dit ce qu'il ne devait pas dire. Il a peut-être entendu ce qu'il ne devait pas entendre, etc. Personne ne peut payer.
Mais exactement, c'est impossible.
C'est impossible. D'accord?
Répondre à tout ça.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Hakol, je suis au 3e paragraphe. Page 194. Hakol, kasher, lakol. Le tout pour tout, ça veut dire tout cela. Ivde bitzdaka kanal. On va racheter par la tzdaka, comme on a expliqué avant. Ilomatsil et tsaorin avche kanal. S'il ne peut pas jeûner, alors il va racheter par la tzdaka. Maintenant, encore une fois, le rabbi dit que même la tzdaka, on n'a pas de quoi payer tout ça. Mais quand même, on va donner la tzdaka. Maintenant, imaginons qu'on parle de la tzdaka. Il y a quand même un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça risque de monter à une certaine somme. Vous savez, c'est écrit, la Gemara nous dit qu'à l'époque, il y avait un problème qu'on avait dans le peuple juif, c'est que les juifs donnaient trop de tzaka.
Ah, c'est pas le cas aujourd'hui.
D'accord. Ils donnaient trop dans le sens qu'ils s'appauvrissaient. C'est-à-dire donner de Baruch Hashem. C'est des problèmes qu'on aime avoir, ça.
Si vous vouloir dire parce qu'il faisait beaucoup de fautes.
D'accord. Non, attendez, avant d'arriver à la faute.
Non, mais pourquoi tu vois le chose?
Pourquoi il fait
tu vois le mal partout, Charles?
Pourquoi il fait Zdaka?
Non, justement. C'est qu'ils donnaient la Zdaka plus que leurs moyens.
Mais je crois qu'on peut pas ça pour
eux. Je comprends, mais concrètement, une personne qui donne la Zdaka, qui donne toute sa paix, etc., concrètement, il n'a pas.
Je croyais qu'il y avait un engagement d'Akadosh Baruch Hu qui disait qu'on pouvait me tester sur la
Tzedaka. La Tzedaka, oui. Non, le Maaser. Ah, mais la Maaser, c'est 10%. Là, il donnait. Donc, il y a eu les sages de Usha. Usha, c'est une ville. Qui se sont rassemblés. Ils ont analysé, donc ils ont développé sur plusieurs problèmes de l'époque. Un des problèmes, c'était la Tzedaka. Les gens, pas juste, ils gaspillaient, ils devenaient pauvres. Ils n'avaient plus de quoi pour eux-mêmes. Donc, c'est un problème. Il y a un nom pour ça. Quelqu'un m'a donné une fois le nom. Le nom des gens qui... Dépensiers pour la charité. Il y a un mot pour ça. Oui, mais philanthrope, quelqu'un qui a. Quelqu'un qui donne et qui n'a pas.
Gaspille.
D'accord. Il gaspille. Alors les Chachamim m'ont dit comme ça. Ils ont dit que le maaser, c'est 10%. Et celui qui veut gaspiller, c'est-à-dire celui qui veut bien donner, qui ne donne pas plus que un cinquième. C'est-à-dire 20%. Donc il te dit maintenant, il te dit ici, le Mourazaken, il te dit... Si, maintenant, tu me demandes de... Tu m'as dit qu'il n'y a pas le corban, je remplace par les jeunes. Il n'y a plus les jeunes, je remplace par la tzedaka. Mais la tzedaka, je vais dépasser les 20%. Et j'ai pas le droit de dépasser les 20%. Dis la Morazakem, c'est pas grave. Pourquoi? Pas parce qu'il veut de l'argent, parce que c'est très important ce qu'il va dire ici. D'accord? Morazakem, c'est vrai que la Morazakem ramassait beaucoup, beaucoup d'argent. Lui-même, il vivait très pauvrement. Mais il ramassait des millions. Il l'envoyait en Israël, dans les Shivot. Parce qu'à l'époque, en Israël, il n'y avait pas de travail. De quoi ils vivaient les gens? Ils recevaient de l'argent des pays du monde. Le Morazaken a envoyé des millions. C'est pour ça que quand on arrivera dans Igeret HaKodesh, plein de lettres que le Morazaken a envoyées pour ramasser de l'argent. Il avait des gens qui étaient nommés pour ça, des gabaïm et des comptables, etc. Tout un système.
Et lui, était pauvre.
D'ailleurs, lui, il vivait très, très, très dignement. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il a été arrêté. Parce que comme, à l'époque, la terre d'Israël était sous l'Empire Ottoman, que l'Empire Ottoman était l'ennemi de, était donc l'empire ottoman, l'empire turc était l'ennemi des Russes. Donc un des chefs d'accusation, on a dit, vous ramassez de l'argent pour un empire ennemi. Non, lui il a ramassé de l'argent pour des Juifs. Mais concrètement, il envoyait de l'argent à un empire ottoman. Et des grosses sommes, très grosses sommes. D'accord? Alors, donc maintenant, Morazaken, il te dit pas ça parce qu'il veut l'argent. Il te dit ça parce qu'il t'explique. Il te dit, il y a un problème ici. C'est que si je vais mettre la tzedaka, je vais risquer de dépasser les 20%. Il te dit, c'est pas grave. Tu dépenses plus que 20%. Pourquoi? Il te dit, tu peux dépenser plus que 20%. En la rouge, ne crains pas. Des lo mikre bizouz ki agavna. Parce que les rachamim, ils ont été très précis. Ils ont dit, celui qui gaspille ne gaspillera pas plus qu'un cinquième. À quel moment c'est interdit? C'est quand tu sens que ça s'appelle du gaspillage. Mais quand c'est pas du gaspillage? Quand c'est pas du gaspillage, quand c'est pour, t'as besoin pour te faire pardonner, il te dit quelque chose de très fort. Mais Harsh aussi libdot nashom etaniel vesigouvim, puisqu'il le fait pour racheter son âme de jeûne et de mortification, logar a mirfoua tagouf ou shasrachav. En quoi serait-ce moins que refoua tagouf? Refoua tagouf, ça veut dire la thérapie du corps. Quelqu'un qui est malade, Dieu préserve. Lui ou un de ses enfants, Dieu préserve. Il va chez le docteur. Il dit, je paye le docteur jusqu'à 20% de mes revenus.
Ah, tu payes tout.
Hein? Il paye tout.
Tu t'endettes, bien sûr.
D'accord? Il paye tout. Il n'y a pas de question dessus. Ça veut dire que tu comprends bien, hein, que quand c'est une question vitale, tu ne rentres plus dans les questions combien j'ai donné. Je donne tout ce que je peux donner. Quand la chair laïche, tout ce que je peux, je donne. Dans quel cas on commence à calculer? C'est quand c'est un cas classique. Bon, okay, il n'est pas spécialement fait de se faire pardonner, etc. Seulement, il aime donner. On dit, écoute, tu veux donner, donne, mais calme-toi. Calme-toi, à un moment, il faut s'arrêter de donner. Mais quand c'est une personne qui donne parce qu'il veut racheter ses fautes, il n'y a pas de question dessus. C'est sûr que celui-là, il peut donner et il n'y a pas de crainte à dépasser les 20% parce que c'est pas interdit, parce que l'ogara mirfouatagouf, ce n'est pas moins que la refoua du corps, que pour ça, pour la guérison, la thérapie du corps, on aurait payé encore et encore et encore. Et pareil pour les autres besoins. Quand tu vas en vacances, c'est un besoin d'aller en vacances. Quand tu vas acheter, c'est un besoin. La cercle à tes chouettes, c'est un besoin. Ou le fiche et mispar atsumot amoskermit le kutchuvan al rebumadon. Maintenant, voilà, là j'arrive au mot de la fin. Après, il y a la suite, évidemment. Maintenant, Admon Razaken, il sait que concrètement, personne ne peut payer tout ça. Même si tu donnes 20%, 50%, 30%, personne ne peut payer tout ça. Alors, il dit comme ça, il sait que c'est très fort ce qu'il va expliquer ici. Il dit, comme de toutes les façons, on sait qu'on n'arrive pas à donner. Et que voilà, personne ne peut donner. Il dit, c'est beaucoup ce qu'il va donner comme ça, comme ça va donner. La reine, c'est pour cela, page 195. Naagou Arshav Kol Haredim Lidvar Hashem. Désormais, tous ceux qui craignent la parole de Dieu ont pris l'habitude. Les harbot, mais hot, bitzdaka. De faire énormément de charité. Ça veut dire que, à l'époque, on comptait. On dit bon, voilà, aujourd'hui, je donne ça, je fais ça, ta, tu comptes. Mais aujourd'hui, on sait qu'on faute beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on compte pas. Quand on a des zaka. Et quand tu montres à Hachem que tu dois donner ce que tu as pu donner, tu dis voilà, écoute Hachem, je t'ai pas donné tout ce que je devrais donner, mais je donnais ce que je, vraiment, chaque fois qu'une quelqu'un qui m'a demandé, j'ai toujours donné, dès que j'entends quelqu'un qui, j'ai aidé. Même des cas où peut-être j'étais pas directement sollicité. Vous savez, il y a des cas où on te sollicite directement. Bon, tu dis pas non. Après, tu peux donner un peu, tu peux donner un peu plus. Comment ça se fait qu'on voit dans la dernière génération que les gens donnent beaucoup de tzedaka? Vous savez qu'aujourd'hui, on donne la tzedaka comme on n'a jamais donné dans l'histoire du peuple juif. C'est vrai que la Gemara nous dit qu'un des signes du peuple juif, c'est quoi? C'est qu'on est, baishanim, rachmanim, gomle chassalim. On a trois signes du peuple juif. On est timide. D'accord? Timide, pas dans le sens qu'on dit pas ce qu'on a à dire. Timide dans le sens qu'on a une timidité profonde. On est intimité profonde devant Kadosh Baruch Hu, on est rachmanim, on est miséricordieux, on est comme les chassanim. Comme les chassanim, c'est-à-dire qu'on aime aider. Comme c'est une nature. À tel point que le Shulchan Aruch nous dit que s'il y a une famille qui est connue pour être des radins, et vraiment des vrais radins, et qu'à part ça, il y a des gens qui disent peut-être qu'on n'est pas sûr qu'ils sont juifs, il faut enquêter.
C'est quoi,
il faut enquêter, parce que c'est pas normal. C'est-à-dire que c'est un des signes de judéité, c'est le fait qu'un juif, il aime donner. D'accord? C'est écrit comme ça. Hein? Non, c'est écrit. C'est écrit que s'il y a une personne sur laquelle on a des questions sur sa judéité, il y a des gens, il y a des rumeurs, etc. Et qu'en plus de ça, c'est une famille de radins, il faut se poser des questions si c'est juste, si il est juif ou pas. Ouais? C'est écrit comme ça. Ou bien s'il y a des gens, quelqu'un sur lequel on a un doute s'il est juif ou pas, et que ces gens très, très effrontés. Très effrontés. Il est effronté comme ça. Il dit, alors, tu poses pas de questions pour monter à la Torah, mais quand tu dois te marier, il faut poser des questions. Il faut chercher, il faut apprendre les ktouba, la mère, la grand-mère, il faut remonter. Et quand on cherche, des fois, on trouve des choses. On trouve beaucoup de choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que donner la tzedaka est un signe du peuple juif. Alors, ça a toujours été ça, comme ça. Depuis l'époque, depuis qu'on est en Égypte, depuis qu'on a reçu la Torah, on a toujours été comme les chassanim. Mais jamais on a donné des tzedaka comme on donne aujourd'hui. Une fois, le Rav Azimov, le fils, m'a raconté, il m'a dit qu'à l'époque, il y avait dans quelques mois, le gala du Veklovitch. Il nous racontait que le premier gala du Veklovitch a été organisé par par un comptable, le comptable principal, bon, aujourd'hui il a fait l'Aliya, je crois déjà, le comptable du Berkovitch, à l'époque, il s'appelait Hervé Goldstein. Hervé, certains l'ont connu, Hervé Goldstein. Et donc c'est lui qui a encouragé le Rav Azimov à faire le gala. Bon, Rav Azimov ne connaissait pas ces choses-là, Rav Azimov, c'était un homme de terrain, il ne connaissait pas ce que c'était les galas. Donc Hervé Goldstein, pendant plusieurs années, il cuisinait le Rav Azimov pour lui dire, il faut faire un gala. Bon, après ils l'ont fait. Comme c'est lui qui a encouragé à faire le gala, donc les premières années, bah, après il a fait Salia, mais les premières années, il parlait au gala. Alors la première année, au premier gala, il m'a raconté le Rav Azimov, il a dit la chose suivante. Il a dit, je me suis posé la question ce soir en venant au gala, je me dis, on a un peuple bizarre. Je dis, regarde, une personne, il est chez lui à la maison, tranquille. Il aurait pu rester à la maison, il aurait pu aller au restaurant, il aurait pu chercher chez lui, etc. Il va aller, il va s'habiller, il va se préparer, il va prendre sa femme, il va venir. Tu sais pourquoi tu viens? Il vient pour donner de l'argent. Il dit, mais t'es fou, quoi. C'est pas normal. C'est pas qu'il est venu, c'est pas que quelqu'un est venu chez lui, et le commercial est venu, et il a pas lâché, il a fini par donner. Non! Un gala, c'est pire, un gala. C'est quoi un gala? Un gala, tu viens pour donner.
Il faut d'abord payer pour venir. Hein.
Non, mais j'ai compris. Mais c'est-à-dire, mais t'es fou, t'es ma boule. T'es pas normal. Ça veut dire, tu viens pour te faire charcuter. Maintenant, nous, on réfléchit pas comme ça, parce que comme en nous, le Ham Israël, on a cette envie de donner, donc je dis, quand on me présente une mitzvah et que je peux aider, j'aide. Je me pose la question, est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Mais si on réfléchit, c'est pas logique du tout. Qu'est-ce que tu vas aller... Parce que vous savez, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de galas mondains. Mais dans ces galas mondains, les gens viennent pas par hasard. Ils viennent pas pour donner. Ils viennent pour être là. Parce que...
Pour être vu.
Il y a les tenues, il y a les showbiz, il y a les personnes que tu dois voir, etc. Après, il y a une cause, on trouve une cause. Mais la cause, c'est un moyen. C'est rien, c'est walou la cause, on n'a rien à faire. On va parler des problèmes en Afrique ou je sais pas quoi, mais ceux qui viennent à la soirée, ils n'en ont rien à faire de cette cause en Afrique. C'est même pas de cause. Je dis, pourquoi tu viens à un gala? La question qui va se poser, c'est quel costume et quelle robe ils vont mettre. Ah, c'est la question. Le Ham Israël, on n'est pas comme ça. Le Ham Israël, quand tu viens à une soirée, tu dis, je vais donner. Je viens pour donner. Mais pourquoi tu viens pour donner? T'es fou ou quoi? T'es pas normal?
Non, pas vous.
D'accord? Ça, c'est un signe du Ham Israël qu'on est gomelé chassadim. On a envie de donner. Seulement, ça a toujours été comme ça. Mais en général, quand on reprend la Gemara, quand on reprend la Mishnah, etc., c'était quand même mesuré. C'est quand même mesuré. On n'a jamais donné des sommes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des galas partout. Vous savez que pratiquement tous les soirs, il y a des galas. Il y a des gens qui ramassent des sous, hein, qui tournent dans les synagogues et tout, ils connaissent tous les galas, ils savent tous les galas où il y a partout. Et tu demandes n'importe quand, ils te disent tous les soirs il y a un gala. Et des fois il y a plusieurs galas.
Oh là là.
C'est pas que décembre ou juin, etc. Toute l'année, il y a des galas presque tous les soirs. C'est tellement de causes. Maintenant, s'il y a un gala, c'est qu'il y a des gens qui donnent. D'accord? Maintenant, combien tu vas solliciter? C'est qu'il y a des gens qui donnent. C'est-à-dire que l'homme Israël donne. L'homme Israël, il donne. D'où ça vient, ça? Et c'est une culture. Certains me diront peut-être, oui, c'est une culture, c'est séfarade, etc. Moi, je vous trouve des séfarades, des ashkénazes, des russes, des polonais. J'ai vécu dans plusieurs endroits. Partout, il y a cette culture que le juif, il a envie de donner. Il donne. On a l'habitude depuis qu'il est petit. C'est-à-dire que l'enfant, j'espère en tout cas, il a été habitué depuis qu'il était petit. Il a vu son père à chaque fois qu'on demandait, mettre la main en portefeuille pour donner. C'est un réflexe. Parce que vous savez, dans la vie, il y a deux réflexes.
D'accord.
C'est le goy qui dit ça, c'est faux. D'accord. Vous savez, dans la vie, il y a deux réflexes. T'as un réflexe de donner. T'as un réflexe de prendre.
C'est aussi pour ça.
D'accord. Et quel est le réflexe qui te vient le plus naturellement? Normalement, le réflexe humain, c'est de prendre. J'ai pas envie de donner. Regardez un enfant. Un enfant, tu lui prends quelque chose, il hurle. D'accord. Lui, il prend. Et petit à petit, on habitue. Alors, quand l'enfant, il voit que son père, on a expliqué dans le cours Shabbat, on a expliqué que quelque chose qu'un enfant, il voit chez ses parents, il remettra jamais en question. Un enfant, il remet en question quelque chose qu'il n'a pas vu chez ses parents. Quelque chose que l'enfant, il a vu chez ses parents, il a vu le kiddush du vendredi soir, il a vu le repas de Seder, il a vu les téfilines. Quelque chose que l'enfant a vu, un enfant qui a vu son père mettre les téfilines tous les jours, jamais il va poser la question, c'est quoi les téfilines? Pourquoi les téfilines? Il dit, bon, j'ai pas envie de les mettre. Ça, il peut dire, j'ai pas envie de les mettre. Mais jamais il va poser une question, mazot, c'est quoi ça? Parce qu'il a vu ça. Donc, de la même façon, quand un enfant, il a vu son père, il est pas bête, il a vu son père et sa mère qui se préparent, il dit, où vous allez? On va à un gala. C'est quoi un gala? On va donner de l'argent. Oh. Ils vont pour donner de l'argent. C'est intéressant. Intéressant comme concept. Ça marque l'enfant. Ils sont partis pour donner de l'argent.
Et moi, tu me donnes pas.
Tu me donnes pas. Hein? Ah oui. J'ai un copain une fois, il m'a raconté, il m'a dit une fois, il y avait quelqu'un de la famille qui travaillait au sentier. Et une fois, lui, il avait besoin de sous. Il avait besoin un peu de sous, donc il est parti le voir. Il a dit, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Il a besoin un peu d'argent. Alors, l'autre, il a dit, je peux pas, j'ai pas. Alors, il a dit, je vois des sacs entiers, je vois, il y a des sacs entiers avec des Pascal, etc. À l'époque, je vois des sacs entiers. L'autre, il dit, c'est pas ce que tu crois. Et l'autre, ça l'a marqué. Il m'a dit, je vois des sacs entiers. Ça l'a marqué, des sacs entiers. Mais évidemment, c'est-à-dire qu'un juif, il doit avoir l'habitude. On doit inculquer ça à nos enfants qu'un juif, il donne. Maintenant, je donne ce que je peux donner. C'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que l'enfant, il a compris que le réflexe naturel, c'est de donner. Alors, Rav Azimov, il me dit, René de Brocha, une fois, il nous a dit qu'un des problèmes de la France, de la mentalité française, c'est que dans la mentalité française, d'abord, on dit non. Tu demandes quelque chose, d'abord, je dis non. Après, je vais voir si je peux le faire, peut-être, pourquoi pas, on verra. D'abord, je dis non. Ça, par un gris, tu dis, est-ce que tu peux m'accompagner à l'aéroport?
Non.
D'abord, je dis non. Après, je dis, bon, écoute, finalement, bah, j'ai réfléchi, pourquoi pas, on va essayer, etc. Mais un juif, c'est pas comme ça. Un juif, d'abord, il dit oui. Il vous dira oui.
Hein? Oui, augmenté, toi.
Mais le compteur.
Non, à la fin, il dira non.
Ah, oui, trois fois. De doubler, tu diras oui. De tripler, il dira non.
Serge, il nous fait une réplique. Ouais. Il vous dira oui.
Demande-lui de t'augmenter, tu diras oui. De me doubler, il te dira oui. De m'établir, il te dira non.
C'est pas oui.
Oui, oui. Il vous dira oui. Parce qu'un juif, il doit d'abord dire oui.
Oui.
Alors quand c'est trop.
Il dira non.
Ah, ça y est, il dira non. Ok? Mais ça, l'enfant, il doit voir chez ses parents, ça. Il doit voir chez ses parents qu'il y a une nature de, une envie de donner, une envie d'aider. Il faut que l'enfant, il voit ça. Et que c'est pas seulement que, parce qu'il y a des fois, on a envie de donner parce que c'est quelque chose qu'on va tirer un profit de ça. On va tirer un profit parce que c'est ma synagogue, c'est mon lieu où je vis, c'est pour une cause qui m'intéresse, etc. Mais un enfant, il doit voir plus que ça. Il doit voir que quand on me demande un tzedakah, je donne. Peu importe, ça m'intéresse pas, j'ai pas compris. Je mets la main à la poche. C'est un réflexe de mettre la main à la poche et le donner. D'où ça vient, ça? Comment c'est que l'homme Israël a pris ce réflexe? La Gemara Zakat t'explique. Il te dit parce que comme aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on n'est plus en état de faire des sacrifices. On n'est plus en état de jeûner. Ni les jeunes aménagés, ouais, comme il a dit ici, d'accord? On n'est plus en état. Même la tzedaka, on peut pas donner tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au moins, à défaut d'eux, on a dit, ok, je peux pas payer tout ce que je dois payer, je peux pas jeûner tout ce que je dois jeûner, je peux pas offrir les commandes que je dois offrir. Au moins, je vais m'habituer à avoir le réflexe de donner quand je peux. Dès que ça se présente, tac, ça veut dire qu'on ne doit pas réfléchir, il faut donner. Mettre la main à la poche, c'est ce qu'il dit ici. La reine, c'est pour cela, Nagou Arshav Kol Acharet Militvar Hashem, je reprends le paragraphe en haut, c'est pour cela que désormais, je cite, tous ceux qui craignent la parole de Dieu ont pris l'habitude, les harbot, mais od bitzdaka, de faire énormément de charité en lieu et en place du jeûne. Mais Chamat Relishutador, à cause de la faiblesse de la génération, des lomatsi, les tsaour et nacham kulea, parce qu'on peut plus se mortifier autant. Alors on donne la tzedaka. On donne la tzedaka autant qu'on peut. Donc moi, chez Ketuv Makomacher, comme c'est expliqué, dans un autre endroit, al pasuk sur le verset, chas de Hashem ki lo tamnu. D'accord? Chas de Hashem ki lo tamnu, ça veut dire quoi? Que pourquoi on fait appel à la miséricorde d'Hashem ki lo tamnu, parce que nous ne sommes pas parfaits. Comme ça, il explique ici. C'est-à-dire que comme ils sont pas parfaits, on dit, écoute, moi je donne ce que je peux, moi je me dépasse, toi aussi dépasse-toi, fais ce que tu peux. Ça, c'est pour ça qu'on a la tzedaka. Ça, c'est l'attitude d'un juif. Un juif doit toujours avoir cette attitude positive. Pas une attitude de radin, de pourquoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont fait, à quoi ça sert, est-ce que cette cause m'intéresse, est-ce que ça m'intéresse pas. Maintenant, d'un autre côté, quand Akadosh Baruch Hu donne de l'argent à quelqu'un, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il considère cette personne est comme son banquier. Là, c'est quand